France Inter.
Salut Blockbuster, salut Frédéric, c'est Gaspard. Eh bien, après tous ces podcasts, toutes ces saisons, j'apprends aujourd'hui que c'est la dernière saison. Non, pour moi, c'est pas possible. Pas grave. Avec Jurassic Park, Pirates des Caraïbes, tous ces énormes blockbusters, je me suis dit, pourquoi pas parler de jeux vidéo, cette dernière saison, de jeux d'horreur aussi. C'est pour ça que je te conseille Five Nights at Freddy's. Très grosse franchise. Allez, merci pour ces 9 ans de passion et à la prochaine.
Bonsoir Frédéric. Bon, bah, c'était pour vous dire merci pour cet épisode génial sur Code Quantum, une série qui rappelle tant de bons souvenirs. Et comme cette série est restée ancrée des années après, Blockbuster sera toujours une mission à part. Un moment feel good qui sentait bon l'été et la détente. Vos intros étaient toujours si pertinentes et votre bonne humeur tellement communicative. Merci pour tous ces moments. Et comme Scott Bakula le faisait à chaque épisode en essayant de réparer les erreurs du passé, et vous nous avez fait aussi jour après jour apprendre des choses sur des sujets qu'on pensait connaître par cœur, écouter même pendant une heure des gens parler d'un sujet qui ne nous intéressait peut-être pas forcément à la base. Alors j'espère que vous me pardonnerez ce jeu de mots facile mais tellement vrai. À vous, votre équipe et à tous les invités qui vous ont accompagné pendant des heures, je n'aurai que 2 mots à dire. Oh bravo.
Ouais, bah salut Fred, écoute, encore un grand merci pour Code Quantum parce que tu m'as remis dans mon adolescence, dans les beaux voyages. Moi, j'ai chialé le jour où il y a eu Georgia sur Code Quantum. Enfin, je pense que ça parlera à ceux à qui ça parle. Enfin, bref. Encore merci pour ton émission depuis 2017. J'écoute. J'ai enfin compris que le Geek LV2, ça existait. Merci, bisous et rendez-vous dans le multivers.
To be or not to be, not to be.
Quand on vieillit, il y a des signes. Par exemple, on s'endort avant la fin des séries qu'on regarde. Des fois, juste on bâille et on se coince le dos. On hypothèque ses biens pour pouvoir se payer des verres progressifs. Et puis un jour, on se retrouve dans un concert de rap d'un groupe qu'on écoutait quand on était jeune, et là, on mesure la distance parcourue. Quiconque a connu l'âge d'or des concerts d'IAM ou d'NTM sait de quoi je parle. Parce que dans les années 90, c'était les quartiers populaires que tu retrouvais dans ces concerts. Ça sentait la beuh, ça s'embrouillait entre deux titres. Et sur scène, t'avais une rage qui transcrivait une réalité que t'allais retrouver à la sortie du concert. 30 ans plus tard, le public a blanchi. Et je ne parle pas que des cheveux. T'as des darons et des daronnes sur scène et dans la salle. Des fois, ils ont même emmené leurs enfants, comme à un concert d'Aldebert. Les rappeurs d'antan, ils portent quasiment les mêmes fringues, jeans et t-shirts, sauf que tout taille plus petite, t'as l'impression. Rendez-vous compte, Joey Starr, désormais, c'est l'acteur qui fait le prof dans un téléfilm de TF1. Et Akhenaton, c'est le gars qui écrit les posts anti-vax que tonton partage sur son mur Facebook. À côté de toi, t'as des cadras qui s'appellent Constance ou Valentin, qui chantent « Laisse pas traîner ton fils » en faisant yo-yo avec les doigts. Ce qui est cocasse, quand tu sais que le fils de Constance et Valentin, il a fait une école Montessori et on lui a payé une année sabbatique en Australie, histoire qu'il se trouve le pitchoun. Finalement, la street cred, c'est devenu la pavillon cred. Un concert de rap quand t'as presque 50 ans, finalement, c'est ta tournée âge tendre tête de bois à toi.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Dropped them.
Écoutez, pour les auditeurs de France Inter, je crois bien que c'est le plus grand groupe de rap au monde, hein, selon ce qu'ils me disent depuis 3 ans. Du moins en termes d'influence, de morceaux ou de modèles économiques, on ne peut nier que le Wu-Tang Clan a marqué comme personne l'histoire du rap américain. Ce charismatique groupe de rappeurs new-yorkais originaire de Staten Island, passionné de films de kung-fu et de philosophie orientale, est cité comme un modèle par des générations entières d'artistes hip-hop. Pour retracer leur parcours, je suis accompagné par Olivier Cachin, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes journaliste, auteur et animateur, et votre dernier ouvrage, Dutronc, une vie en chanson, est paru aux éditions Hugo.
Yes, c'est exact.
Avec nous, et on est ravis, Mekolo Biligui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et chroniqueuse, nous pouvons notamment vous lire dans le média Loud et vous entendre sur XV3 Radio dans l'émission La Maison Mère.
C'est ça, tout à fait.
Avec nous, Sylvain Berthaud, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, auteur, et nous pouvons vous lire sur votre média fakeforreal.fr et vous êtes notamment l'auteur de rap hip-hop 40 années en 200 albums aux éditions Le Mot et Le Reste.
Exactement.
Wu-Tang, you can break it down to wise, universal, truth, or law, now, God. You can break it down to, we usually take all niggas' garments. You can break it down to the witty, unpredictable talent and natural game. The Wu is the way. The Tang, that's the slang in it. It's the sport style.
Vous venez d'entendre un extrait du documentaire Wu, The Story of a Wu-Tang Clan, réalisé par Gérald de Barclay, ami d'enfance de certains membres du groupe. Et dans cet extrait, Reza explique quels peuvent être les différents acronymes du Wu-Tang. Et il conclut, le Wu, c'est notre voix, le Tang, c'est l'argot et l'épée, notre style. Alors parmi les sujets que les auditeuristes de Blockbuster réclament à corps et à cri depuis plusieurs saisons, il y a le Wu-Tang Clan. Donc expliquez, s'il vous plaît, au néophyte que je suis, ce que représente ce groupe dans l'histoire du rap américain.
Bah, déjà, il représente la reprise de pouvoir de New York, parce qu'il faut quand même voir qu'au moment où arrive le premier album Enter the Wu-Tang, 36 Chamber, en 93, entre parenthèses, il est sorti en France presque 3 ans après, en 96, bah, on est encore beaucoup dans ce gangster rap, ce rap californien, et New York a un petit peu perdu la côte. Bon, il y a Notorious Big qui arrive, mais le Wu-Tang, c'est vraiment... Et puis c'est quelque chose de nouveau et en même temps d'ancien, c'est-à-dire qu'il y a ce son qu'on a souvent décrit comme boueux, un petit peu lo-fi, c'est pas de la... C'est pas du high-tech, c'est vraiment quelque chose de très, très, très underground, et c'est d'autant plus étonnant que ça va devenir effectivement le groupe de référence pour toute une génération. Et puis il y a aussi toute l'histoire commerciale qui va avec, ce fameux contrat incroyable qu'ils ont signé, puisque c'est un groupe de 8 ou 9 rappeurs, selon les formations, et qui vont avoir le droit de signer des albums solo sur d'autres labels, ce qui était une méthode de fonctionnement assez inédite. C'est Loud, le label qui les a signés, qui leur a autorisé ça, et du coup, bah, il y a eu une espèce d'invasion du Wu-Tang avec le Wu et avec les rappeurs séparés.
Mekolo Biligui, qu'est-ce que représente le Wu-Tang à l'époque où il arrive sur la scène du rap américain ?
Ben, je pense, comme disait très justement Olivier, c'est tout à fait ça. Et puis, je pense que, ouais, il y a ce truc de, quand même, New York, c'est la ville qui a vu naître le rap. Donc, c'est important de remettre un peu New York au milieu du débat rap aussi. Voilà. Et je pense que, en fait, c'est assez cyclique. Et on voit un peu cycle aussi se reproduire dans le rap aujourd'hui. Voilà, New York, ça restera toujours la Mecque du rap, mais il y a des Atlanta qui arrivent, enfin voilà, il y a la Californie qui a toujours été là, je pense, mais ouais, ça remettait vraiment New York au milieu de la carte, et puis c'était surtout un son, ouais, je pense, nouveau. Il y a quelque chose dans la manière de travailler de Reza, je pense, qui est ultra organique, et je pense, pour les futurs beatmakers, que même revenir à des sons un peu plus crades, ce serait pas mal. Comme Reza, travailler un peu plus comme Reza, parce qu'on aime bien les trucs ultra mixés, ultra bien, ultra propres, mais est-ce que le rap doit toujours être propre ? Je pense que Reza nous a prouvé que c'est pas forcément, c'est pas ça qui fait forcément le succès d'un bon titre de rap.
Sylvain Berthaud, est-ce qu'on pourrait cartographier les différents raps qui existent aux États-Unis? C'est quoi qui différencie un rap de Californie d'un rap new-yorkais?
Alors, ça a changé avec le temps, naturellement. À cette époque, le rap californien, il est marqué, on va dire, par deux choses. Il est marqué par des thématiques gangsta très prononcées. C'est pas les premiers à l'avoir fait, mais c'est vraiment les premiers à l'avoir popularisé. Et ils sont marqués par des sons sans doute plus soyeux, plus généreux, plus mélodiques, plus accessibles, ce qui va conduire leur succès. Et donc, d'une certaine façon, le Wu-Tang Clan, il s'inscrit dans ça, parce qu'ils ont une âpreté ils viennent de la rue, ils ont dépassé dans la délinquance.
Oui, passé et même présent, parce qu'en fait, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que tous leurs enregistrements ont été jalonnés de problèmes judiciaires, d'incarcération. Il y en a un qui n'est pas là parce qu'il est en prison, il ne peut pas chanter avec nous, il y en a un qui s'est fait tirer dessus, ça n'arrête pas en fait.
Oui, donc ils ont repris, ils ont ce côté dangereux que voilà, ils vont comment dire battre les Californiens à leur propre jeu avec ce côté dangereux, mais en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont excessivement new-yorkais. Comment leur son ne peut venir que de là-bas. Ils sont beaucoup plus rudes, beaucoup plus durs, beaucoup plus minimalistes. Mais en même temps, on en parlera sans doute à un autre moment, il y a un côté presque cinématique, cinématographique dans leur musique qui est assez particulier et assez inédit à ce moment-là de l'histoire du rap.
Olivier Cachin, qui a créé le Wu-Tang ?
C'est un collectif, donc a priori, il n'y a pas... Enfin, si, il y a quand même, évidemment, un leader, c'est RZA, qui est celui qui a produit l'intégralité du premier album, ou quasiment, celui qui donne le ton un peu de ce qu'est devenu le groupe, et celui qui va aussi, d'ailleurs, amener une nouvelle ère du son new-yorkais. C'est lui qui domine, parce que c'est lui qui est un peu le mastermind derrière tout ça. Après, on ne peut évidemment pas négliger l'importance de RZA, de Raekwon, pardon, et de Method Man, qui sont les deux principaux rappeurs, ceux qui ont fait les plus grosses carrières en solo aussi. Mais c'est vrai que c'est RZA qui, ne serait-ce que parce qu'il est le producteur, et puis parce qu'après, il a montré à travers différentes des rôles au cinéma ou dans des séries télé, ce qu'a fait aussi d'ailleurs Method Man, qu'il était bien au-delà de simplement le Wu-Tang. Mais c'est lui qui est le plus conceptuel des 8 ou 9 rappeurs du groupe.
Mais Kolo Biligi, vous validez ?
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est vrai que l'aspect collectif, je pense que c'est surtout parce que déjà en fait ils viennent d'un endroit particulier à New York, c'est Staten Island, donc du coup déjà je pense qu'il y a quelque chose qui est très c'est un peu une partie de New York qui est assez coupée finalement un peu du reste, donc je pense que voilà ils sont très entre eux et tout machin, et je pense que le côté collectif c'est on ne sait peut-être pas qui le crée, mais en tout cas, comme disait Olivier très justement, c'est RZA qui donne la direction. Et après, voilà, tout le monde se greffe un peu, même si, en vrai, comme dans beaucoup de collectifs, je sais pas si on peut les asseoir autour de la même table là aujourd'hui.
Oui, c'est difficile.
Qu'il y ait des vigiles, quoi. Je pense. Ça peut être très, très vite compliqué parce que les égos, les personnalités, voilà. Mais je pense qu'il y a des collectifs du rap français aujourd'hui. On peut prendre la similarité, on peut pas les asseoir ensemble. Donc, finalement. Et c'est peut-être, est-ce que c'est peut-être ça aussi, peut-être le destin des collectifs. C'est qu'à un moment donné, voilà, on sait faire si aussi été à un moment. Et puis, il y a des moments où il y a trop de divergences et on n'arrive plus.
D'ailleurs, les concerts du Wu-Tang en intégralité, on a beaucoup de chance quand on a vu le Wu-Tang dans son intégralité en concert, parce que
les concerts ne se terminent pas.
Ah bah non, c'est pas ça. Je veux dire, c'est que il y a jamais tout le monde. Old Dirty Bastard était rarement là quand il était vivant. Maintenant, évidemment, c'est encore un autre problème. Mais quand la dernière fois qu'ils sont passés à Paris il y a quelques années, il en manquait beaucoup, beaucoup à l'appel.
Ouais, moi j'y étais. Comme on a dit, c'était le Wu sans le Tang.
Voilà. Ça a commencé dès le début. Dès la pochette du premier album, il en manquait trop. Donc ils sont tous masqués, on ne sait pas lesquels, mais on se doute. Mais oui.
Oui, donc en fait, c'est ça qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même énormément de la vie du quartier qui s'exprimait aussi. Voilà, le jour où on fait la pochette de l'album, il y en a 3 qui ne sont pas là. On fait un concert, il y en a un qui est en zonzon. Et tout à l'heure, je vous ai vu réagir sur Staten Island, sur ce quartier de New York. On a une vision de New York, carte postale, qui a été véhiculée par de nombreuses séries, de nombreux films. Ça n'est pas du tout dans ce New York-là qu'ils ont évolué, en fait.
Non, c'est beaucoup plus excentré. Staten Island, on l'a dit très justement, c'est un petit peu à part à New York, c'est un petit peu en dehors, c'est un peu plus en périphérie. Staten Island, c'est une île, comme le nom l'indique. C'est pas les grandes tours, les grands immeubles qu'on a l'habitude de voir à Manhattan, ni même les paysages de Brooklyn. On peut le voir dans le biopic, la série biopic qui a été tournée il y a quelques années. C'est un peu plus pavillonnaire, un peu plus des maisons. J'y suis jamais allé, mais c'est ce que j'ai compris. Donc oui, c'est un univers à part. C'est surtout un univers qui n'était pas avant eux vraiment une place forte du rap. Il y a eu un groupe avant eux, les UM6, qui étaient leurs amis, qui ont un petit peu émergé, mais c'était à peu près tout. Donc c'était vraiment à part.
Alors, parler du Wu-Tang, c'est bien, l'écouter, c'est mieux. Et on va écouter en l'occurrence Gravel Pit, tiré de l'album Legend of the Wu-Tang Clan. 1, 2, 1, 2, yo, check this out, it's the jump board right now. I want everybody to put your rope down, put your guns down, and you pour to the pit, the gravel pit. Leave your flowers at home, leave your children at home. We gonna take it back underground. I be Bobby Bowden, Wu-Tang Clan on your mind one time. It's the jump board, so just jump off, my nigga.
From the land of the lost, behold the pale horse, off course. Follow me, Wu-Tang gotta be the best thing since Starks and Clark Wallabies. African killer bees, black watch on your radio, blowing out your watch. From Park Hill, the house of Haunted Hill, every time you walk by, your back get a chill. Les Bill, want to talk about skill. I spit like a semi-automatic to the grill. Elbow grease and elbow boom, baby play me, baby fall down, go boom. Party people gather round, countdown to apocalypse.
I'm the kid with the golden arms,
and I'm the motherfucking hot Knicks. Pass the blunt, my nigga, don't front. You had it for a minute, but it seemed like a month. Now I'm choking, smoking, hoping I don't croaking from overdosing. Hey kid, when the mouth got you open, let's ride. Can't stand niggas that floss too much. Can't stand Bentleys, they cost too much. Kid wanna get up, then can't get touched. Kid wanna stick up, then can't get stuck. I'm the one that calls you bluff when your boy try to act tough. Remember what old Dirty said, I'll fuck your ass up.
Now listen, back, back and forth.
Check out my gravel
back
kit.
And forth, back, back
all
and forth.
All this story unraveled.
As we go
back,
back and forth,
and forth,
back, back, back and forth, and forth.
Don't go against the grain if you can't handle
it. As we go.
Eat with the English, extinguish styles, extremists. Forehead beamers run wild as the kid with the gold cup. Stepped out like what? Was popping and y'all niggas drove up blasting. Shay Shay chocolate saute. Rich Kellamox rock those all day. 1960 shit, I'm Goldie. That's right, motherfucker, don't hold me. The world's greatest, Las Vegas paid his rock. Skin painted on my face, look ageless. Perfect combos, those bang out condos. Jet from Homo X, we bong those bankrolls. Stank holes in plain clothes. Change those bang those, same old, same old.
Yeah, y'all, straight up, this the jump off right here. The grapple pit. Word up, representing rockin' boulders. All my rich gangster style killers. Y'all know what time it is. Shorty, do your thing. Get up on that right now, boo. Do you? That's what I'm talking about.
Step to my groove, move like this. When we shoot the gift, of course it's ruthless. Grab the mic with no excuses in a sec. Grab the text, salute this. Executing, shaking all sets. And now I'm breaking all hex. I'm taking all bets. Move on best, who want the draw next? You won't stink, we got the bigger bank. Bigger shank to fill your tank. Still the same, kill for real. Fire your crank, slide, do or die. Fry the bait, admire the grades. On fire with a heart of hate. Bit of shark, every part I take. Heavy darts to quake, it's okay. All fakes, get caught by the drop kicks. You know the thrill, yes, it's Park Hill. Yo, we hit him with the hot grits. On the go, check the flow. Singing Wu don't rock shit. Stop quick, hold the gossip. Stop sweating my pockets, I hear the hot shit.
Blockbuster sur France Inter.
L'être humain, dans ce court passage sur notre terre, ne peut appréhender toute la nature. Il ne peut saisir les cinq sens. Il n'est qu'un passage, mais il est éternel.
Hey, les gars.
Et c'est ainsi, mes chers disciples.
Vas-y, tu fais quoi là? Pourquoi tu mets le film sur pause, mec?
Vous avez entendu ce que ce gars il vient de dire? Vous avez entendu son truc? Avec les oreilles qui peuvent pas percevoir les cinq sons. C'était carrément un truc de ouf.
T'es pas sérieux, là? Depuis quand t'écoutes ce que les types disent dans ces films? Faut avancer jusqu'aux scènes d'action.
Ouais, mais écoutez, moi j'ai vu les bastons de ce film au moins une centaine de fois. Mais ce que ce vieux moine vient de dire, c'était super profond.
Ça, c'est un son que mes oreilles perçoivent très bien. Ça claque
grave, mon frère. C'est ce que je vous disais. Ce film m'a énormément inspiré.
C'est clair.
Ouais, ce son, il décalque.
Ouais.
So the illusion is saying, hey, son, dance for me, baby girl, they playing our song.
Vous venez d'entendre un extrait de la série Wu-Tang, An American Saga, série en 3 saisons, créée par Reza et Alex Tse, qui revient sur la formation du groupe. Alors là, Olivier Cachin, on a entendu leur amour pour les films de Kung-Fu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce nom, Wu-Tang Clan?
Bah, en fait, c'est une référence totalement directe à toutes ces séries de films des Shaw Brothers, qui sont des films hongkongais, le Temple de Shaolin, la 36e chambre de Shaolin. Donc, c'est des films qu'ils allaient voir sur la 42e rue, parce que avant de devenir cette espèce de Disneyland un peu écœurant, New York, c'était une ville dangereuse, Times Square, la 42e rue, il y avait des putes, des dealers, des cinémas pas très recommandables, avec du porno, du kung-fu, des films d'action, et eux, c'était leur univers, ils ont grandi là-dedans. Ils racontent d'ailleurs dans un morceau qu'ils fumaient à 16 ans des wools, c'est-à-dire des joints d'herbe avec de l'angel dust, donc on est vraiment dans un truc très très street, et cet amour pour les films de kung-fu, bah, c'est des films d'action, et puis il y a quelque chose qui est très différent des films américains, et on retrouve ça dès le premier album, avec tous ces samples, des extraits de dialogue, de bandes de bruitage aussi, avec les sabres, les cris des mecs en train de se battre. C'est des films extraordinaires, hein. Moi j'adore ça, oui. David Chiang, Lui Chia-Lang, moi j'allais voir ça, non pas dans la 42e rue, mais au Trianon et à la Cigale, qui à l'époque était des cinémas, oui, de Kung Fu, qui coûtaient 6 francs les doubles programmes, mais j'ai pas fait de Kung Fu ni de rap après. Mais donc ils ont grandi avec ça, et c'est marrant comment ils l'ont retranscrit et inscrit dans leur univers, faisant d'eux un groupe unique, parce que c'est les seuls, en tout cas ça a été les premiers, à mettre à ce point le kung-fu hongkongais au cœur de leur rap.
Sylvain Berthaud, on entend bien dans cet extrait que Reza, alors qu'il avait des potes très talentueux, mais qui étaient quand même sur le canapé en train de regarder des films ou ce genre de choses, les a mobilisés. Et en fait, il a utilisé la métaphore suivante. Il leur a dit « Je veux que vous montiez tous dans ce bus, vous êtes les passagers et je suis le conducteur, et personne ne doit me demander où l'on va, je vous emmène au sommet, donnez-moi 5 ans et je vous promets qu'on y arrivera tous ensemble. » Oui. On voit quand même que parmi ce groupe, il y a quand même quelqu'un qui a eu l'énergie, l'envie de s'extraire très rapidement de là où il vivait, et ce quelqu'un, c'est Reza.
Oui, tout à fait. Alors, cette histoire, il l'a racontée a posteriori, comme toujours.
Donc c'est peut-être lui qui, voilà.
Oui. Il a vraiment dit ça, mais c'est ce qui s'est passé, in fine, c'est quand même lui qui a mené la barque. La série dont on vient de parler le montre assez bien, parce que c'est quelqu'un qui est né, qui a grandi dans cet environnement criminel, de deal, très dangereux, très difficile, où il devait subvenir aux besoins de sa famille pendant que son frère était en prison, mais c'était pas son truc. Là, pour rebondir un petit peu sur l'histoire de Kung-Fu, je disais tout à l'heure que le Wu-Tang, c'était un groupe dangereux, criminel et compagnie, mais on oublie l'autre aspect, qui est que c'était aussi des geeks, et Reza en particulier. Et ça, c'est aussi, c'était nouveau dans le rap. Et Reza, son projet, c'était s'extirper de la criminalité. C'est un artiste, hein. C'est quelqu'un qui voulait faire de la musique, c'est quelqu'un qui voulait faire des films. Donc c'est quelqu'un qui a embarqué tous ses potes, tous ses amis avec lui dans ce grand projet. Est-ce que c'était planifié à 5 ans et compagnie? Est-ce qu'il l'a inventé après? On s'en fiche. Mais c'est bel et bien son entreprise, et c'est bel et bien cette volonté de devenir un artiste, tout simplement.
Et vous qui les avez suivis depuis le début, quel est votre morceau préféré du Wu-Tang, Mekolo?
Alors du coup, moi peut-être, voilà, on le voit pas, mais autour de cette table, je suis un peu plus jeune quand même. Non, faut le dire. Donc moi, en vrai, j'ai découvert le Wu sur MTV, en vrai. En 2000, avec Gravel Pit, je devais avoir 12 ans. Un truc comme ça, où c'est mon frère qui m'avait fait un peu, via ODB déjà, vu qu'il rappait sur des morceaux de Mariah Carey et tout, donc voilà. Mais après, moi, dans mes pérégrinations rap, franchement, je pense que le morceau qui me met le plus de frissons, ça sera étonnant, mais je pense que c'est Jaward avec Junior Reed. parce qu'en fait ça traite d'un sujet notamment ça traite d'un sujet qui est très afro-centré et qui moi me parle en tant qu'afro-descendante, et on y traite d'esclavage, on y traite le fait est c'est que tout ce qu'il dit en fait, parce que sur le morceau c'est Ghostface Killah qui fait le premier couplet, mm-hmm. et il rentre dans le morceau avec God I beg for forgiveness, enfin voilà, et ça continue comme ça, et je pense que pour moi c'est un morceau qui, déjà la prod je pense qu'elle est ouf, elle met dans une espèce d'ambiance où tu sens que, en fait, même si t'es pas anglophone, tu sens qu'il se passe quelque chose dans ce morceau et que ça veut dire quelque chose. Et d'aller chercher aussi quelqu'un comme Junior Reed, mais qui est aussi sur l'album, qui a deux feats sur l'album The W, sorti en 2000. Enfin, moi, je pense que c'est ce morceau qui me touche le plus parce que, et ça reprend une image où il dit, en gros, voilà, on a le dos plein de cicatrices et aussi brûlé par le soleil. Donc, c'est une référence directe à l'esclavage et à une photo célèbre que je pense que tout le monde, qui s'intéresse notamment à la culture afro-américaine et afro-descendante en général, connaît, voilà, d'un monsieur qui est photographié de dos avec des cicatrices de fouet, en fait. Oui. Et je pense que ce morceau, à chaque fois que je l'écoute, et je le réécoutais tout à l'heure, et j'ai fait une petite story, je l'ai mis en story et tout, je pense qu'il me fait... j'ai des frissons parce que le sujet, je le trouve puissant, la prod puissante, l'interprétation de Junior Reed aussi qui arrive sur le refrain, même s'il dit pas grand-chose. C'est ça le truc, c'est qu'il dit pas... Enfin, si vous allez sur Genius, vous allez comprendre. Mais l'interprétation est tellement puissante que voilà. Et je pense que ça parle vraiment de ce que c'est aussi, du ressenti d'être notamment afro-américain aux États-Unis, d'être un homme afro-américain. Voilà, et je pense que pour moi c'est un morceau important, et j'aurais peut-être pas dit ça il y a quelques années, j'aurais peut-être dit ouais, protect your neck ou un truc comme ça, mais je pense que finalement Jaward, ouais, c'est un morceau qui moi me paraît important dans leur discographie, et surtout d'avoir fait venir quelqu'un en fait qui est issu du reggae tout simplement. Oui. C'est déjà ces espèces de connexions, et on a vu que c'est arrivé, enfin là on est en 2000, donc c'était pas non plus si nouveau que ça, mais il y a beaucoup de rappeurs qui après se sont adonnés à cet exercice de fitter avec des mecs issus du reggae, notamment
Junior
Nas.
Reed, il est jamaïcain, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui. Bah, après il y a est-ce que finalement le rap n'est pas un peu né en Jamaïque aussi? Parce que en fait, la communauté, afro-jamaïcaine, elle est hyper importante pour l'histoire du rap, parce que Kool Herc est tout simplement jamaïcain en fait. Et donc voilà, il y a tout cet héritage. Donc je pense que c'est aussi une manière de boucler une espèce de boucle en prenant Junior Reed. Ça veut dire beaucoup de choses. Et ouais, moi je trouve que c'est un morceau vraiment puissant.
C'est le Berto.
Cream, cash rules everything around me. Donc,
l'argent dirige tout autour de moi,
quelque chose comme ça. Ça traduit leur univers. Mais en même temps, on parlait tout à l'heure de la rupture qu'a représenté le Wu-Tang dans le rap. C'est un morceau mélancolique, très cinématique. On ressent effectivement, enfin toute l'appétence de RZA pour les bandes originales. C'est basé sur un sample, si je ne me trompe pas, des Charmels, qui est un groupe des années 60. Et moi, quand j'ai écouté ça, le rap, ça pouvait être rigolo, ça pouvait être offensif, ça pouvait être plein de choses. C'était rarement mélancolique comme ce morceau et d'autres le sont. Enfin, moi, ça m'a évoqué, enfin, il y a beaucoup de points communs de mon point de vue entre deux albums qui sont sortis à quelques mois d'écart. Le Wu-Tang Clan et Portishead. Il y en a qui rappent, d'autres pas, mais ce son cinématique, mélancolique, est très très proche, et c'est ce qui m'a énormément marqué quand j'ai découvert le premier album de Wu-Tang, et ça, c'est sans doute voilà, mon morceau préféré encore aujourd'hui du groupe.
Olivier Cachin.
Bah, en fait, le problème avec le Wu-Tang, c'est qu'il y a 7 ou 8 albums, et le Wu-Tang, c'est un peu comme l'héroïne, le premier shoot est incroyable, et après, on passe son temps à essayer de retrouver...
Je laisse ça à votre discrétion, parce que je vais pas faire le mec, mais bien sûr, j'allais le dire.
Non, mais c'est comme dans Trainspotting, vous vous rappelez la première scène, prenez votre meilleur orgasme, mais multipliez-le par 10 000, et vous êtes encore loin du compte. Donc, ce premier album, il est incroyable, et tout le reste après, finalement, surtout avec le deuxième...
Mais il n'y a même jamais eu d'orgasme, je peux absolument pas témoigner.
Et c'est sur ce premier album qu'il y a vraiment l'essence du Wu-Tang. Wu-Tang, et pour moi, alors j'aurais pu effectivement dire Cream, mais je dirais pour Method Man, c'était M-E-T-H-O-D Man, qui est le morceau, l'acronyme du nom du principal et du plus grand sûrement rappeur du Wu-Tang, où on retrouve ce côté avec cette voix un peu sifflante, parce qu'il a toujours ce côté, il ravale sa salive, de temps en temps il crache, c'est un type qui est incroyable, il a une personnalité folle, il est drôle en même temps, et ce morceau c'est tout le Wu-Tang, et en même temps c'est le principal rappeur du Wu-Tang qui s'illustre, donc je dirais M.E.T.H.O.D. Man.
Très bien. Alors, on me dit hein, dans le casque que comme nous sommes sur le service public, il faut évidemment conseiller à nos auditeurs et auditrices de ne pas abuser des orgasmes à consommer avec modération, bien entendu. Voilà, on est ensemble pour parler rap, et j'irai même plus de rap culte avec le Wu-Tang, et on écoute Protect Your Neck, Enter the Wu-Tang.
Smoking Joe Frazier, the Hellraiser, raising hell with the flavor. Terrorize the jam like troops in Pakistan. Swinging through your town like your neighborhood Spider-Man. So all tick-tock and keep ticking. Well, I get you flipping off the shit I'm kicking. The Lone Ranger, co-ed, danger. Deep in the dark with the art to rip the charts apart. The vandal, too hot to handle your battle. You're saying goodbye like Devin Campbell. Roughneck, Inspector Dex on the set. The rebel, I make more noise than heavy metal.
The way I make the crowd go wild. Sit back, relax, won't smile. Ray got it going on, pal. Call me the rap assassinator. Rhymes rugged and built like Schwarzenegger. And I'ma get mad deep like a threat. Blow up your project, then take all your assets. Cause I came to shake the frame in half with the thoughts that bomb. Shit like math. So if you wanna try to flip, yo, flip on the next man. Cause I grabbed the clip and hit you with 16 shots and more I got. Going to war with the melting pot.
It's the Method Man for short, Mr. Map. Move it on your left. Ah, and set it off, get it off, let it off like a gat. I wanna break food, cop me back. Small change, they putting shame in the game. I take game and blow the nigga out the frame. And like fame, my style will live forever. Niggas crossing over like they don't know no better. But I do, true, can I get a suit? Not respect due to the 1-6, ooh, I mean, oh. Yo, check out the flow like the Hudson or PCP. When I'm dusting, niggas off because I'm hot like sauce. The smoke from the lyrical blood make me,
what, grab my nut, get screwed. Here comes my sound, let's style. True, B-A-B-B-Y-U. To my crew with the.
Yeah, yeah, yeah. Come on, baby, baby, come on. Baby, come on, baby, baby, come on.
Yo, you best protect your neck.
First things first, man, you're with the worst. I'll be sticking pins in your head like a nurse. I'll attack any nigga who's slacking his mat. Come fully packed with the fat bucket stack. Same on you when you step through. Two, the old dirty bastard, straight from the Brooklyn Zoo. And I'll be damned if I let any man come to my center. You enter the winter, straight up and down that shit. Cam, you can't slam. Don't let me get fool on the man. The old dirty bastard is dirty and stinking. Ace on your nigga rolling with the night of the creeps. Niggas be rolling with a stash. Ain't saying gas. Bite my style. I bite your motherfucker.
Yeah, loud. My style is wild. So book me. Not long. It's how long that this rhyme took me. Ejecting styles from my lethal weapon. My pen that rocks from here to Oregon. Here's more again. Catch it like a psycho flashback. I love gats. Rap was a gun. You wouldn't bust back. I come with shit, all types of shapes and sounds. And wherever I lounge is my stomping grounds. I give an order to my peeps across the water to go and snatch up props all around the border and get far like a shooting star. Pursue our all is living the life of Pablo Escobar. Point blank as I kick the square biz. There it is, your fucking pros and it goes.
Yo, chill with the feedback block. We don't need that. It's 10 o'clock, ho. Where the f*** you see that? Feeling mad hostile. Ran out apostle. Throwing like Christ when I speaks the gospel. Stroll with the holy robe. Then attack the globe with the buckets. Style the ruckus. 10 times 10 men committing mad sin. Turn the other cheek and I'll break your f***ing chin. Slaying boom bangs like African drums.
LB.
Coming around a mountain when I come. Crazy flamboyant for the rap enjoyment. My clan increased like black unemployment. Yeah, another one dare. Took a genius. Take us the f*** out of here.
The Wu is too slamming for these coke killer labels. So ain't had hits since I seen Aunt Mabel. Be doing all the sinning like Cain did Abel. Now they money's getting stuck to the gum under the table. That's what you get when you misuse what I invent. Your empire falls and you lose every cent. But trying to blow up a scrub. Now that thought is just as bright as a 20 watt light bulb. Should've pumped it when I rocked it. Niggas so stingy they got short arms and deep pockets. This goes on in some companies with majors. They're scared to death to pump these. First of all, who's your A&R? A mountain climber who plays an electric guitar. But he don't know the meaning of dope when he's looking for a suit and tie rap that's cleaner than a bar soap. And I'm the dirtiest thing in sight. Matter of fact, bring out the girls and let's have a mud fight.
Blockbuster, Frédéric Sigrist, sur France Inter.
Who are you, fam? I am Sons of Man, Wu-Tang Clan. About to take it to another chamber. From Medina to Marseille,
Marseille. I'm born atomically. Socrates, philosophies, and hypotheses. Can't define how I be dropping these mockeries. Lyrically perform armed robbery. Flee with the lottery. Possibly they spotted me. Battle scarred, shogun. Explosion when my pen hits. Tremendous. Ultraviolet, shine blind forensics. I inspect view through the future. See millennium. Killer bees sold 50 gold, 60 platinum.
Something in the street went bang, bang. Making it hard for you to do your thing, thing. Something in the street went bang, bang. Making it hard for you to do your thing, thing.
Snowy night, Kings Basin. A raisin in the sun was amazing. The joint on the dresser, a gauge went off. Jumped up, fish tank, it fell. Renee stuck. They shot a cousin, LaVon, Neo the Buck. Willie was awful, pulled out the ratchet, let off two. Grits fell on his leg. Keanu ripped and called Bowie Valen. A Allen nigga with the talent of six killers who just came home from straight wallin'.
Y'all know the rules, we don't fuck with fools, man. How the fuck did we get so cool, man? Never ever disrespect my crew. If you fuck with who, we got to fuck with you.
Forgive me, master.
Big rings on the finger, truck all glittery. Ladies love Kappa, cause I'm still shivering. My name on a thousand, you know I keep passing. Kiss them on the face, unbutton they blouses. Give them nice pair of kicks, beautiful trousers. All my gators get money, I hustle a lot. If you violate me, then I'ma spoil your plot. Gravitate, stupid crabs, we eradicate. No disrespect, it's only dollars we collect. Go hard, so protect your neck.
I am Sons of Man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn. I am Sons of Man from the royal fam. Never ate ham, never gave a damn.
I'm blowing niggas out the frame. Now what's my motherfucking name? I'm playing niggas like a boy game. You can't fuck with the drunk Dreddy Kruger. Blow, blow. Two slugs for my Ruger and I'll move ya. I write rhymes when I'm sober. Say it when I'm drunk. The Buddha monk got the skunk. Yo.
Olivier Cachin, on vient d'entendre un extrait de la saga, le duo que le groupe Wu-Tang a fait avec IAM. Et c'est évident, quand on retrace l'histoire du Wu-Tang, que IAM, en fait, a voulu faire la même chose, mais à la française.
Oui, évidemment, c'est une de leurs influences, mais en même temps, ils ont commencé avant, donc ils avaient aussi déjà ce côté, mais ce côté collectif, ce côté on est tous ensemble, c'est vrai que IAM, puis cette fascination, surtout pour le rap américain, parce que ça, c'est quelque chose qui, depuis le début, avec Ayman Rakim, en duo, en dieu du rap, vénéré par Akhenaton et tous les autres, c'est le modèle, l'Amérique, d'ailleurs, encore aujourd'hui, ils disent, nous, on n'écoute pas du rap français, on n'écoute que du rap américain, très pointu, comme ils disent. Mais c'est vrai que on retrouve ce côté technique aussi, et puis ce respect de l'art, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, le rap est devenu une musique qui s'est énormément élargie, qui a accepté la mélodie, le sample de trucs très commerciaux, alors qu'à la base, c'est quand même quelque chose qui est effectivement assez pointu, assez technique, réservé à des gens qui connaissent l'art. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus ouvert, et évidemment moins spécial que ça l'était à l'époque des débuts d'IAM et du Wu-Tang.
J'aimerais aussi qu'on parle de la figure de ODB, Original Dirty Bastard, qui, pour les gens qui écoutent le Wu-Tang, semble être une personnalité à part. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
En fait, moi je vais vous raconter une histoire. Je ne l'ai pas interviewé, mais je l'ai rencontré. En 97, le Wu-Tang, au moment de la sortie du deuxième album, arrive en France pour un concert au Parc des Princes, où il y a plein de groupes. Il va y avoir aussi Rage Against the Machine, NTM, qui va d'ailleurs fumer le Wu-Tang. Et moi, la production m'appelle pour animer la conférence de presse du Wu-Tang. Donc, je suis super content, ils m'ont jamais payé d'ailleurs.
Mais écoutez, si on peut aider. Hein.
Et donc j'arrive, je m'y super vers le Wu-Tang, bon, je me doutais bien qu'il n'y aurait pas tout le monde, et j'arrive, il y a Popa Wu, qui est un espèce de gars qui fait l'intro de l'album, qui essaie de vaguement de se faire passer pour un membre du Wu-Tang, il y a DJ Mathematics, qui est une pièce rapportée, et le seul vrai Wu-Tang qui est là, c'est ODB, sauf que ça ne va pas vraiment être une conférence de presse, parce qu'il arrive torse nu avec une salopette, avec le cul à moitié à l'air, une bouteille de champagne à la main, il beugle deux, trois insanités, il fait un truc, et il fait une espèce d'apparition comme ça, qui dure 2 minutes 30. J'ai même pas le temps de lui poser une question. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il va reproduire ça sur scène, puisque quand il va y avoir le concert une heure après, il va faire un délire parano, genre les snipers de la CIA sont sur le toit, ils veulent nous flinguer. Le type était comme ça, il était complètement dingue. En même temps, c'était aussi une crème, quelqu'un qui était très sensible et qui a aussi fait, rappelons-le, et tu l'as rappelé d'ailleurs, un duo incroyable avec Mariah Carey, qui était le début de cette alliance incroyable entre le rap et le R&B, parce que Fantasy, le son de Tom Tom Club, puis la voix de ODB qui est là, oh baby, come on, avec cette voix incroyable, et Mariah avec ses 5 octaves magnifiques. Ce mec est une espèce de comète qui est passé très vite dans le rap, mais qui a laissé une marque indélébile.
Mikolo ?
Bah, y a aussi la voix, ouais, cette manière de rentrer dans les couplets. Enfin, franchement, faut, bon, déjà, paix à son âme, déjà. Mais on se dit, mais il est déchiré ! En fait, c'est ça, il est déchiré. Mais ça donne un délire de ouf. Enfin, c'est vraiment ouf dans le sens où c'est bien, mais c'est un délire de fou. Et même...
Moi, en plus, quand vous dites ça, je sais très bien qu'il y a des auteurs qui vont dire, oui, quand même, c'est honteux, vous faites l'apologie d'artistes bourrés. Je vous rappelle que Serge Gainsbourg a fait une grosse partie de sa carrière comme ça aussi.
Ouais, voilà, et quand c'est chic quand c'est Gainsbourg, c'est pas chic quand c'est ODB. Bon, on discutera de ça, voilà. Le fait est, c'est que ouais, il y a ce, et puis en même temps il a ce côté là hyper brut, hyper raw, et après tu peux aller sur un feat avec Mariah Carey qui est la petite fiancée, voilà, mais elle vient de se séparer de, je pense à l'époque elle vient de larguer Tommy Mottola là, l'autre toxique, et puis elle se dit bah voilà, il faut que elle s'achète un peu une street cred aussi. Et à ce moment là je pense que la meilleure manière d'avoir une street cred, c'est soit tu vas feater avec des mecs du Woo, soit tu vas chez Bad Boy Records. Alors Bad Boy Records aujourd'hui, on voit que c'est pas un si bon choix que ça. Voilà, hein, y a un procès pour Sean Combs, on ne dira plus son alias, mais voilà. Un procès très compliqué, elle a fité aussi de ce côté-là, et je pense que ODB à ce moment-là, il a porté une street cred, mais il y a aussi une sorte de folie, enfin, même sur la pochette de son album, faut voir comment il est coiffé, enfin, même la pochette, elle est iconique, enfin, le gars, à lui tout seul, est iconique, et c'est tout un monde, c'est cette espèce d'image entre quelque part la folie et la fragilité. Je pense que aujourd'hui on lui dirait va voir un psy, tu ne vas pas bien en fait, et c'est ce truc qui est aussi que l'industrie peut avoir et épuiser les artistes là-dessus, c'est de se servir des fois de cette image de folie pour en faire quelque chose, merci le capitalisme.
Mais c'est-à-dire qu'on les aide pas,
on les aide pas, justement, peut-être même on les enfonce encore plus. Oui. Ne lui donnez pas une bouteille de champagne quand il est déjà chargé comme une mule. Ça ne sert à rien. Et en fait, et je pense que l'industrie peut exacerber ces choses-là. Et ODB pour l'époque, je pense que c'est assez représentatif de ça.
Sylvain Berthaud, on entend effectivement dans les différentes personnalités du Wu-Tang qu'il y avait des gens écorchés vifs. Quand on écoute un album du Wu-Tang, ce qui choque immédiatement à l'oreille, c'est que c'est très rugueux, les finitions sont pas forcément bien faites, mais tout est emporté par l'énergie qui se dégage de ça. Est-ce que, comme le dit Mikolo, il y a aussi cette idée de « Ah, on sent qu'ils sont écorchés vifs, il faut qu'on l'exploite, et c'est bien si jamais ils n'en guérissent pas, dans l'industrie du rap. »
Alors, je ne m'avancerai pas sur le « c'est bien s'ils n'en guérissent pas », mais oui, il y a ce côté écorché vif que, bah, ODB, c'est le cas par excellence. Oui. Je mettrai quand même quelques nuances, parce que le grand avantage du Wu-Tang Clan, c'est qu'ils ont décliné leur son en de multiples genres musicaux en eux-mêmes. Et il y a une grande différence d'un artiste à l'autre en termes de certains sont quand même plus rugueux. Donc, Old Dirty Bastard, sans doute le plus rugueux de tous. D'autres ont des formules beaucoup plus chiadées, polies. Et ils ont aussi évolué dans le temps. C'est-à-dire que le côté rugueux, lofi, artisanal, amateur, mal enregistré du premier album, qui est enfin un album génial parce qu'effectivement, il capture toute cette rugosité. On sent que ça vient des tripes. On va la perdre progressivement, on va la perdre à mesure que le son va devenir, plus professionnel quelque part.
Alors on va faire une petite pause, parce qu'en France aussi, on aime le rap et on se débrouille plutôt pas trop mal. Et la preuve, avec, c'est la courtoisie de notre programmateur musical Jean-Baptiste Audibert, on va écouter Jungle Jack et Hologram Low, l'école de l'Est.
«
dans le temple comme un homme fervent. Moins de sourhomme serpent, en gueule de bois aux entraînements, oui aux enterrements. Cette merde c'est pas de l'entertainment. Du toit je regarde le paysage, mais ni le village caché. Par-delà des murs et des grillages d'acier. Fais pas avoir par les mirages, t'aurais des flashs de quelques haches, quelques images de ninjas au visage masqué. Pas la clava et kéfié, cafard passe par l'évier, la tuyauterie, mon inspire comme un puits rempli d'eau de pluie. Pas besoin de recopier le style d'autrui, le stylo fuit. L'esprit est fertile comme une pépinière, et encore plus tordu que la moelle épinière. La prod est lourde comme l'atmosphère dans les cimetières. Je vois là les MC, mais y'aura pas assez de civières. Hey. J'arrive avec ma lame et mon lingam. Tu pourrais pas copier mon style, même avec le Sharingan. Drunken Monkey Style, Jackie Chan avec un bon petit sky. Lyrical pen chaque syllabe, flow articulé comme un nunchak. Pour qu'ils comprennent chaque syllabe. Hey, grosse capuche, pas de costume chic. C'est l'école de l'Est, l'école des couteaux qui collent à cause du shit. Check.
Belleville, ici dans le nord-est de Paris, on a entendu parler du sud des États-Unis. On bricole des rythmiques avec des basses ronflantes et un matériel rudimentaire.
Je porte le poids de mes erreurs avec fierté, comme une médaille. Je fume et je graille, je prends mes thunes et je taille. Je fais ça pour la beauté du geste, avec l'amour du détail. Mon grinder a eu plus de fleurs qu'il y en aura à mes funérailles. Récupère un petit colis des dom-tom. Les rimes arrivent comme des projectiles de gomme cogne. Je garde une canne à pêche comme gone. Plein milieu de la nuit, le fun sonne. Puis c'est un mec qui ressemble à Marilyn Manson. Hey, c'est la gloge un bitch. Trésor est caché quelque part, trouve-le et deviens riche. Je me sens comme un archéologue quand je souffle sur la couverture poussiéreuse d'un disque. Examine le dièse comme un mystérieux indice. Écoute mes textes pour voir le monde à travers les yeux d'un G. Hein. Bonne est la santé de l'homme qui fait ce qu'il aime. Béni soit-il s'il est noble comme celui qu'on nomme SPM. Rap raffiné, Paris Est. Niax praliné, les ravins Paris-Brest. Hey, j'ai pas lu Machiavel, j'ai pas lu Sun Tzu. Mais sûrement que je les tabasse aux échecs et au kung-fu. Jack, j'boxe avec les mots. C'est là, j'boxe qu'avec des mômes, j'bosse qu'avec des pros. S'il y a que des hustlers et des tox avec les crocs.
Et rimes arrivent comme des projectiles de gomme cogne. J'garde une canne à pêche comme gone. Plein milieu de la nuit, le fun sonne. Puis c'est un mec qui ressemble à Marilyn Manson. Allô? Hey, c'est la gloge un bitch. Trésor est caché quelque part, trouve-le et deviens riche.
Attention, qui que vous soyez, attention.
Blockbuster.
Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Frédéric Sigrist.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Sur France Inter.
Au début de l'année 93, le Clan entama une tournée à guichets fermés à travers les États-Unis. L'énergie sur scène était envoûtante.
Je te le dis, mec, leurs instrus, c'était leur truc. Pas seulement les paroles, mais leurs instrus. Leurs instrus old school, qu'on entendait comme enregistrés dans une cave. On les écoutait sur une cassette magnétique. Une cassette TDK de 60 minutes ou Memorex de 90 minutes. On revenait aux années
81-82. Olivier Cachin, depuis The W, leur dernier album vraiment marquant, on les a vus plus souvent au procès qu'en studio. Et donc j'ai qu'une question, qu'est-ce qui est devenu le Wu-Tang ces dernières années ?
Bah, pas grand-chose, malheureusement. Il y a Reza qu'on a vu chez Quentin Tarantino, qui a fait des films.
De oui, il a fait des BO, ouais. Et il a même joué dans Mr. Nobody.
Mais encore une fois, comme le disait Nico tout à l'heure, le dernier concert, quand ils sont venus avec De La Soul et Public Enemy, bah, c'était ennuyeux. C'est terrible à dire, mais il y avait plus... Bon, d'abord, ils sont plus tous ensemble, jamais. Et je sais pas, je crois que malheureusement, l'histoire est un peu terminée. Il y a eu cet album ridicule, enfin ridicule, je sais pas, personne l'a écouté à part Martin Screlli, le crétin milliardaire qui l'a payé 2 millions de dollars, le Once Upon a Time in Shaolin, qui était censé être l'album ultime. Puis après, on a appris que finalement, c'était peut-être pas un album du Wu-Tang, que c'était un album de Silver Rings, qui est un des producteurs des groupes annexes. Bon, tout ça est une espèce de bouillie, et finalement, le mieux, c'est de réécouter The W, Triumph, ou évidemment Enter the Wu-Tang, 36 Chamber, le premier album, parce que franchement, le Wu-Tang aujourd'hui, c'est plus un glorieux souvenir qu'un groupe encore d'actualité, malheureusement.
Sylvain Berthaud.
Oui, c'était il y a 30 ans. Donc, quel groupe est toujours aussi pertinent 30 ans après? Pas beaucoup.
Ayam. Presque.
Presque. Comment? Non, je dirais quand même, il y a quelques personnes qui ont tiré leur épingle du jeu. Risa, malgré tout, parce que avec sa carrière de BO, on parlait de Tarantino, on parlait de Jarmusch.
Oui, de Ghost Dog, évidemment.
Ghost Dog, la BO est excellente. Évidemment. 99, c'est déjà mieux. Comment? Et il n'arrête pas de faire des choses, en fait. Là, je regarde encore, il annonce la sortie d'un jeu vidéo, de jeu de rôle. Enfin, voilà. Enfin, il a écrit des livres sur sa philosophie à lui. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas, mais il arrête
pas.
Oui,
il a aussi fait la BO d'un excellent animé, ça vient de me revenir en direct, la Afro Samouraï, qui était magnifique et que je vous invite à voir, d'ailleurs.
Et les BO sont bonnes. Hein. La série, la 2019, qui raconte leur histoire, la BO est bonne. Donc, il a toujours quand même quelque chose. Et puis, à côté de ça, bon bah c'était il y a longtemps, mais on a Ghostface Killah qui, quand le Woo était complètement passé de mode, continuait à maintenir la flamme. Donc avec des albums, Supreme Clientèle en 2000, Fishkill vers 2007 et compagnie, qui étaient aussi très très bons. Donc ils étaient 9 voire 10 sur Mecca Padona. Voilà, il y en a quand même quelques-uns qui sont restés pertinents un peu plus longtemps que les autres, dont Ghostface Killah notamment.
Mekolo, qui peut se revendiquer d'être l'héritier ou les héritiers du Wu-Tang? Parce que je sais que Nas et Jay-Z ont souvent dit que sans le Wu-Tang, il serait jamais apparu. Est-ce que c'est eux?
Il y a peut-être un peu ce côté-là, mais je pense que peut-être. Enfin, je sais pas. Je voudrais pas parler pour eux, mais Jay-Z, il y a plus un côté quand même. Nas, c'est plus c'est pour moi en vrai de vrai. Je pense que les héritiers, bizarrement, ils se trouvent en France en vrai. Vraiment ceux qui ont pris, et notamment avec IAM, parce que je pense que leur manière de faire avec, de mettre du cinéma dans les albums, dans cette construction, de permettre de mettre des outros, où on met des intros, des interludes d'albums, où on entend des voix, des scénarios de films, des paroles de films, enfin tout ça en fait, je pense que le... Encore une fois, le rap français se l'est bien approprié et ça a perduré longtemps cette manière. Et puis je pense qu'il y a aussi ce truc, le Wu-Tang, ça nous a permis d'être des geeks décomplexés. Il y a ce côté-là, c'est cool en fait quand tu les regardes, quand tu regardes Reza, quand tu regardes ces gars-là, de te dire oh c'est trop. En fait, c'est cool d'être geek, tu vois. C'est des geeks où tu te rends compte que en fait, être un geek, en tout cas de cinéma de cette manière-là, de rap de cette manière-là, t'es obligé d'être quand même, d'avoir une notion où t'es dehors. Faut que t'ailles au cinéma, faut que tu croises du monde. Donc ça change de ce truc de geek un peu de jeu vidéo, t'as l'impression
oui,
que
le côté où t'es à coup, t'es enfermé dans ta chambre.
Ouais, voilà, je pense que ça a rendu cool ça. Et oui, même moi, donc du coup, grâce à Reza, je peux me revendiquer d'être une geek du rap et en fait, c'est super cool. Donc je pense qu'il y a ce côté, il y a un peu. Ce côté-là. Mais on oublie, je pense qu'il y a aussi, on oublie Method Man qui a une carrière de ouf, cinéma aussi, surtout qui a normalement un film que tout le monde connaît, un film de Stoner, mais voilà, O.I. quand même, qui est peut-être un de ses films les plus connus. Il a fait une apparition aussi dans une série The Deuces de David Simons, qui est le réalisateur de The Wire, quand même, une des plus grosses. Donc voilà, je pense que Method Man aussi, il tire beaucoup son épingle du jeu. Et Raekwon aussi, The Chief, en fait, finalement. Donc je pense que en fait, on a tous un peu de Wu en nous. De toute façon, comme il disait, Wu-Tang is for everybody.
Merci beaucoup, Mekolo Bidigui. Merci, Olivier Cachin. Merci, Sylvain Berthaud, d'avoir évoqué, évidemment, non exhaustivement, mais le Wu-Tang. Donc, je vous invite à réécouter les albums, à les découvrir pour ceux qui ne connaissaient pas. C'est la fin de cette émission. Une émission toujours réalisée par Étienne Bertin. Elle a été préparée par Lisiane Larbani et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amain Guest. Et aujourd'hui, à la technique, il y avait Adèle Caglar. Comme toujours pour les messages, vous avez le répondeur. C'est le vôtre. Il est ouvert tout l'été au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20. Et si vous voulez suggérer des sujets, il reste encore quelques petits créneaux, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Fred Sigrist. Et on se retrouve demain pour parler de la sensation du moment dans le monde du jeu vidéo français, Clair-Obscur, Expédition 33.
Shaolin Shadowboxing. And a Wu-Tang sword style. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous.